Sur le parvis de la cathédrale de Port-au-Prince, un vieillard vêtu d'une tunique avec une croix imprimée sur le devant s'approcha de moi et me demanda « Comment tu t'appelles, mon garçon ?»« Poteau, » répondis-je. « En voilà un joli prénom pour un beau garçon. As-tu la foi ?»« Je ne sais pas. » »« Je suis sûre que tu l'as. Tu veux que je te montre que tu es un garçon plein de foi ? Viens avec moi. » Je l'ai suivi, on est entré dans la sacristie de la cathédrale, puis dans une pièce assez sombre, avec pour tout ameublement un lit, une commode et une photo du Christ sur le mur. Le sauveur du monde était blanc et beau garçon. « Tu es prêt ?» me demande le vieillard. « Prêt ? Pourquoi ?»« Je vais te donner la preuve que tu as la foi, mon garçon. » Mackenzie Orcel est notre invitée ce soir à l'occasion de son nouveau livre intitulé « Maître Minuit ». Et en seconde partie d'émission, il sera rejoint par son ami aussi écrivain, Nicolas Hidier. Mais comme chaque soir, on commence en musique et notre choix, eh bien vous allez le découvrir, c'est Nina Simone and the Fugees.
But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. We used to be number 10, now we permanent as one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol, nozzle, it's amazing. Blood becomes lukewarm, tell her, squeeze this armor. Test why clef, see that flesh gets scorned. Beat so bad, make you feel like you ain't wanna be born, John. And tell your friends, stay the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. I'm not the dead pigeon. If you are my theosis, then I'm bringing all Haitian Sicilians. Nobody shooting, my body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkins in the razor blade. That sounds sick, baby, one day I write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. We clink in the knees in their own families. We're getting come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Yeah. Ooh la la la. Rap tunes on flat spoons, take no shorts like poopoons. See hoochies, pop coochies for coochies. And Gucci find me in my Mitsubishi, eating sushi, bumping Fuji's. Hey, 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 try to take the crew and we don't play, play. Say, say, like Paul McCartney, not hardly on. Big enough, I can see right through your fluff. Niggas huffing, they puff, but they can't handle us. We bust, just be mortified. I could never hide, secretly hot, cry when cold cheese died. I'm twisted, blacklisted by some other Negroes. Don't remove my polos on the first episode. You shouldn't diss refugees and the whole sound set booty and half a respect jersey, cause I'm super fly when I'm super high on the Fuji line.
Ooh la la la. It's the way that we rock when we doing our thing. Ooh la la la. It's the natural law that the refugees bring. Ooh la 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 la.
Shh, we play.
I sit 90 degrees underneath palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn TPs. Who that be? Enemies wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ushuaikan. I'm a true champion like Farrakhan reaches Delhi Quran. It's a phenomenon, lyric fast like Ramadan.
What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Zion. Zion.
La, la, la.
Yeah.
partir de quel âge, Mackenzie Hursel, avez-vous commencé à regarder le ciel la nuit?
J'ai toujours regardé le ciel. J'ai toujours regardé la nuit. La nuit, pour moi, c'est très important. Parce que les gens, ils sont pas là, je peux les imaginer. Je peux aussi établir un contact direct avec moi-même. C'est-à-dire, à partir du moment où le soleil se couche, j'ai comme l'impression que je peux me matérialiser. Que je peux entrer dans une connivence, dans une vraie conversation avec moi-même, avec mon enfance, avec mes vécus, et aussi avec le livre que je suis en train d'écrire.
Croyez-vous
aux
fantômes ?
Et donc la nuit, elle est partout dans mes écrits. Elle est partout, comme la mer. Parce que quand je regarde la mer, j'ai l'impression de pouvoir dépasser l'horizon. Pourquoi j'ai cette impression? Parce que l'horizon, il est là. Quand les vagues reviennent à mes pieds, c'est l'horizon qui revient. Et quand elles repartent, l'horizon, il est toujours là. Il reste avec moi. Et je pense que le mouvement romanesque, le mouvement poétique, c'est un mouvement marin. C'est un mouvement nocturne. C'est une traversée nocturne, c'est une traversée marine. On peut écrire un poème en deux lignes, en deux vers. Mais il y aura toujours un mouvement infini à l'intérieur de ces deux vers. Ces deux vers portent un mouvement insaisissable, qui est pour moi le mouvement marin, le mouvement de la nuit.
Pourquoi écrivez-vous et croyez-vous aux fantômes, Mackenzie ?
Fantômes ?
Il y en a beaucoup dans votre littérature.
Je sais pas. Pour moi, les fantômes, c'est peut-être les souvenirs. Ces voix qui m'habitent, ces démons, ces crapules qui parlent dans ma tête. Cette grosse difficulté que j'ai à capter une voix parmi toutes ces voix-là. À capter une voix, mais la voix juste, qui va porter le livre, qui va faire de cette idée qui était au départ une toute petite idée, une sorte de grande nuit, de d'océan. C'est ça un livre, un roman surtout. C'est une petite idée qu'on a au départ et à la fin, ça devient une mer. Une mer d'idées, une mer de souvenirs, une mer de choses, une mer de cris, une mer de gens, une mer humaine. Maître Minuit, c'est exactement ça. Je pense que c'est peut-être le livre dans lequel j'ai mis beaucoup de nuits, beaucoup trop de nuits, beaucoup trop de voix, beaucoup de gestes, beaucoup de paroles. Poto, il serait né dans les années 50 en Haïti. Et à partir de là commence sa petite histoire, l'histoire de sa vie. L'histoire d'un enfant, d'un orphelin, un enfant volé, un enfant sans famille, sans père, sans mère, sans avenir. Et en 1957, arrive Duvalier, donc papa a vie dans mon livre, commence la grande histoire. Et Poto doit à la fois se réinventer et aussi traverser cette histoire, faire quelque chose de lui-même à travers cette histoire. Il a marché. Il a marché, il a marché, il a marché, il a tout appris en marchant. Il a appris à aimer, il a appris à pardonner, il a appris à être lui-même, à se perdre, à se retrouver. Et on le retrouve aujourd'hui, grandi, un vieil homme, plein d'expérience. Et il est capable de raconter cette traversée. Une traversée qui est à la fois intérieure et extérieure. On voit Poto en train de traverser la ville et il dessine. On découvre la ville qu'il traverse à travers ses dessins. On découvre la grande histoire qu'il traverse à travers ses dessins. Donc il y a une double nuit, une double mer, un double mouvement et dans la traversée de Poto.
On parlait des fantômes, on parlait de Poto. C'est le personnage principal de votre nouveau roman, Maître Minuit. Et Poto, il est aussi le fantôme de lui-même. Là aussi, comme dans vos livres précédents, Mackenzie Hursel, le double, la gémelléité, l'absence de croyance en soi-même, tous ceux qui errent, encore une fois, dans la nuit de Haïti, ils sont là omniprésents. Est-ce que l'écriture vous sert à essayer de savoir séparer les fantômes?
Au contraire, ça me sert à me rapprocher de moi-même, à me rapprocher de ces fantômes, à savoir, à me questionner, à essayer de passer derrière le regard que ces fantômes posent sur le monde. Enfin, moi, je crée des individualités. Je mets en scène mes fantasmes, je mets en scène mes rêves. J'ai confié des secrets, des fantasmes, des motivations à Poto pour qu'il puisse avancer dans la vie. Mais Poto, il sait qu'il est si petit. Il le sait, il est tellement humble, il le sait. Il sait qu'il est en train de traverser l'enfer, qu'il est en train de traverser une dictature, qu'il est seul, qu'il n'a pas de famille, il n'a pas d'amour, il n'a rien. Il n'a que ses dessins. Il le sait. Et il prend le temps de dessiner, il prend le temps de regarder le monde, il prend le temps d'essayer de comprendre. Et à partir de là, il construit une œuvre et il va devenir célèbre. Il est célèbre pas parce qu'il est l'artiste le plus, comment dire, le plus complet, le plus connu, le plus talentueux. Il est devenu célèbre parce qu'il y a une forte sincérité dans ce qu'il dessine. C'est-à-dire, Poto, pour la première fois dans toute l'histoire de cette dictature, nous donne à voir l'intimité, l'intérieur même de la dictature. Poto dessine le dictateur dans son lit. On n'a jamais vu un dictateur en pyjama. Poto le fait. Poto nous plonge dans la tête de cet enfant de 10 ans qui veut devenir, je sais pas, un homme tout de suite. Un gros viril, un phallus intégral, un phallus capital, comme son père. Et il fait n'importe quoi pour que le tonton Macoute puisse aller rapporter ça à son papa. Cet enfant déprimé, un enfant victime de son papa dictateur. Poto nous plonge dans sa tête. Poto nous plonge dans la tête de l'impératrice Fiette Lalo. Fiette Lalo, c'est un terme utilisé en Haïti pour parler des femmes au pouvoir, des femmes Macoute. Et Poto nous plonge dans la tête de cette femme. Qui parle de sa vie, qui parle de cet homme qu'il a épousé en 1939, cet homme qu'il n'aime pas, qui pue de la gueule, cet homme qui parle d'Haïti comme son terrain de chasse, cet homme qui a tout pour lui, cet homme qui est invincible, cet homme qui se veut immatériel. Poto nous plonge dans l'intimité de cette dictature. Nous, tout ce qu'on sait aujourd'hui de la dictature de Duvalier-Riz, c'est les exécutions de masse, les solitudes, les isolements, les persécutions. Et on a entendu parler de tel tonton Macoute qui a fait ci, qui a fait ça, et qui régnait en maître dans tel ou tel quartier. Mais jamais on nous a plongé dans l'intimité, même dans la psychologie de ce personnage. Et qui était Duvalier.
Votre personnage principal, Mackenzie Orcel, de ce dernier livre qui sort en ce moment même, qui s'appelle Maître Minuit, n'a pas eu d'enfance. Il a été un enfant abandonné, il a rêvé d'avoir des mères, il se trouve des mères de substitution. Il passe partout, ce jeune poteau, à travers toutes les classes de la société. Et il est doué d'une faculté exceptionnelle, il sait regarder, il sait observer, il prend le temps aussi de regarder et d'observer. Et c'est à partir de la force de son enfance qu'il arrive à cartographier l'état de son propre pays, Haïti, qui est un pays en déliquescence. Dans le livre qui a précédé immédiatement Maître Minuit, il y avait ce livre qui s'intitulait « L'ombre animale », où vous mettiez en scène une femme. Vous étiez devenu le personnage principal de cette femme. On vous sent complètement imprégné de la force de l'enfance et de la force de l'écriture que donne la possibilité de restitution de l'enfance. Quel type d'enfance avez-vous vécu? Et vous nourrissez-vous, Mackenzie Orcel, de vos propres sensations que vous avez traversées, car votre écriture est une traversée des apparences, pour pouvoir en écrire de l'enfance et sur l'enfance?
L'enfance que j'essaye de, d'écrire, elle est ineffable, elle est insaisissable. C'est pour ça que c'est excitant, parce que quand j'écris un bouquin, j'ai l'impression d'essayer d'atteindre cette enfance. Et à la fin, je me dis, ouais, c'est bon, je l'ai eu, c'est bon. Et après, non, le vide revient et je dois combler ce vide. Et ce vide à combler, pour moi, c'est l'enfance. C'est, réinventer cette enfance. Mon enfance, c'était quoi? Une petite enfance tranquille dans un quartier populaire, sans jouets, sans... Une enfance ordinaire, une petite enfance, pas une belle enfance, mais une enfance. Et moi, j'écris pour m'offrir des jouets, j'écris pour m'offrir plein de trucs, j'écris pour m'offrir toutes les étoiles du ciel, j'écris pour m'offrir la lune, j'écris pour essayer de poser un regard sincère, vrai, depuis mon enfance, depuis mon quartier pourri, sur le monde. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça, un écrivain. C'est quelqu'un qui pose un regard sur le monde à partir de sa petite solitude, à partir de son coin. Il a pas vraiment de place. Sa place est dans le livre. Sa place est ailleurs. Il le sait. C'est la raison pour laquelle il continue. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de place. À chaque fois qu'il publie un livre, à chaque fois qu'il écrit un bouquin, il s'offre une petite place. Mais elle est tellement si petite par rapport au monde, par rapport à l'existence du monde, et qu'on le voit même pas. On sait même pas qu'il est là. Et donc, je pense que l'enfance, elle est très importante parce qu'elle me permet de me chercher, d'essayer de me compléter. C'est l'enfance qui nous complète. Et j'écris pour me compléter. Et Poto, il le fait si bien, il le dit si bien dans le livre. Je m'appelle Poto, je suis un mec sympa. Il sait pas s'il est sympa. Il dit des trucs. On a l'impression qu'il dit des trucs complètement barrés, mais c'est pas barré du tout. Il passe son temps à dire « je suis Poto, je m'appelle Poto ». Il passe son temps à s'affirmer. Et il va se rendre compte que toute l'affirmation de soi, tout ce qu'il est, tout ce qu'il n'est pas, tout ce qu'il va être, est dans ses dessins.
Je vous propose d'écouter la voix de René Depestre. Vous appartenez à un pays qui est très fécond en immense littérature et en grands écrivains. Parmi eux, René Depestre, qui, je le rappelle, est comme vous, Mackenzie Orcel, à la fois romancier et poète. Il a publié de très nombreux livres. D'ailleurs, un de ses livres a été publié très récemment. Il est connu à la fois pour la beauté de ses poèmes, mais aussi pour ses romans, qui parlent beaucoup de Haïti, alors qu'il vit en exil en France depuis extrêmement longtemps. Nous allons l'écouter. Il va parler de l'imaginaire haïtien. C'était le 28 mars 2011.
Donc il y a un imaginaire haïtien qui s'est constitué en marge même de l'échec du droit, de l'échec de l'État, de l'échec de la nationalité, n'est-ce pas ? Il s'est constitué un imaginaire propre, original, qui distingue un haïtien d'un africain ou d'un français, n'est-ce pas ? Qui fait que nous avons nous occupons au soleil une place qui nous est propre, mais toujours dans la tragédie, n'est-ce pas? Et le séisme actuel, je dis, avec le séisme actuel, la violence inhérente à l'histoire d'Haïti a rencontré la violence tellurique. Et on est victime d'une double violence aujourd'hui.
Nous venons d'écouter la voix de René Depestre, je crois. Mackenzie Orcel, que vous appartenez à la jeune génération, car vous êtes très jeune, mais qui est le fruit de ce que René Depestre vient d'expliquer, c'est-à-dire cet imaginaire haïtien avec cette langue française extrêmement fécondée et féconde et naturellement belle, presque, quand on vous lit, c'est des enchantements de lectrice que j'ai en vous lisant, et ce depuis pas mal de temps, car malgré votre jeunesse, vous avez publié pas mal de livres, mais vous êtes aussi un enfant de ce tremblement de terre du 12 janvier 2010, cette catastrophe, et cette violence-là a été redoublée. Or, votre univers d'écrivain est hanté par la violence. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous rappeliez les années de dictature, vous rappeliez les Duvaliers, vous rappeliez les tontons Macoutes, les mamans Macoutes, etc. Mais il y a aussi la violence de la nature. Et cette violence-là, cette double violence, elle est inscrite dans votre fabrique d'écriture.
Oui et non.
Sans oublier la pauvreté.
En fait, le tremblement de terre dans Les Immortels, par exemple, parlons-en, c'est plus un décor que toute autre chose. Et après le tremblement de terre, je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait poser le décor de ce livre dans la ville d'avant ou dans la ville d'après? J'ai choisi de planter dans la ville d'après. Après, bon, les catastrophes naturelles, on n'y peut rien, hein, on les subit, c'est comme ça. Mais quand on est un pays pauvre, un pays appauvri, ça fait beaucoup plus de mal. Mais je peux pas, je sais pas si on peut construire une œuvre sur des violences naturelles, sur des catastrophes naturelles. Des catastrophes humaines aussi, des catastrophes sociales, des catastrophes politiques, les inégalités sociales, ceux qui ont tout et d'autres qui n'ont rien, et ceux qui peuvent manger et d'autres qui crèvent de faim. Donc, je pense que c'est des violences encore plus violentes. Donc la nature, elle est là, elle vit, elle tremble, et quand elle a envie de trembler, elle tremble, quoi. Mais il faut regarder aussi les catastrophes politiques, les pays occupés, les pays sous tutelle, les missions humanitaires, les ONG, ce qu'elles font là-bas, les Américains, la France, le Canada.
À vous lire, Mackenzie Orcel, on a l'impression que votre propre pays, j'allais dire un gros mot, est entre guillemets occupé, entre guillemets, hein, tous pays, les guillemets, les ONG.
C'est un pays occupé par les ONG, par plein d'autres pays, des pays riches qui imposent. Et dans Maître Minuit, j'ai essayé d'aligner ces violences politiques, sociales, humanitaires. Il y a tout un chapitre, un très long chapitre sur les ONG. Et à Port-Salut, il y a la dictature, il y a les violences dans les quartiers populaires, les jeunes qui sont manipulés par les politiciens, qui sont les yeux et les oreilles des politiciens dans les quartiers populaires, ces violences-là. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça.
Et le respect des valeurs traditionnelles, car aussi dans ce livre-là, Maître Minuit, mais aussi dans le précédent et dans d'autres, Mackenzie Orcel, vous parlez de la force que donne le vaudou.
Oui, en tant que mode de vie, oui, c'est une force. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas... on dit religion, moi je préfère...
énergie vitale, vous en parlez comme une énergie vitale.
Voilà, philosophie, mode de vie, et le respect de la nature, la maîtrise des feuilles. Il y a des médecins feuilles dans les endroits les plus reculés d'Haïti, des gens qui maîtrisent les feuilles quand le voisin ou la voisine est malade, on appelle ces gens qui arrivent avec des feuilles et ils peuvent facilement intervenir et faire quelque chose pour soulager. Donc il faut parler de ça aussi. Et aussi il y a toute une remise en question de ces mystères, leur vraie place dans la société haïtienne.
Au nom d'une modernité un peu fracassante.
Aujourd'hui, on pense que le vaudou ça nous empêche de nous développer. C'est le diable, mais je sais d'où ça vient. Sous l'occupation américaine en Haïti, on a tout fait pour bloquer le vaudou. Il y a même un vaudou hollywoodien. Le vaudou hollywoodien, c'est le diable revenant qui arrive, qui tue tout le monde. Mais le vaudou, c'est plus intéressant que ça.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Mackenzie Orcel, Blackout, d'Eddie François.
Blackout nan peyi we, blackout nan peyi sa, se zan pa vle gade, se zan pa gade, c'est pour ça pays. Blackout dans pays, ça, c'est ça ne pas vrai, c'est ça ne pas capable, c'est pour ça ne pas
paysan. J'ai nous là pour nous garder, parole là pour nous parler, l'esprit là pour nous sauver, lumière ses anges cap guider, même blackout dans pays, ça.
Blackout dans pays, ça. C'est ça, pas vrai,
garder.
C'est ça, pas garder. C'est pour ça,
dépayser.
Blackout dans pays, ça. C'est ça, pas vrai, garder. C'est ça, pas garder. C'est pour ça, dépayser.
Blackout là, dans l'esprit, nous, dans la caille, nous. Dans le pays tout côté, il met ses anges cap qui donnent pour nous sortir dans le blackout. Ça,
blackout dans le pays, ça, c'est ça, c'est pas vrai.
C'est ça, pas vrai.
C'est ça, c'est pas vrai. C'est pour ça, c'est pas vrai. Blackout dans le pays, ça, c'est ça, c'est pas vrai. C'est ça, c'est pas vrai.
Ah, ici frère yo, c'est l'imia pour chercher. C'est l'endeuil et l'enfralé. Mes amis, on l'imia, c'est bon Dieu. On marre dans pied. C'est lui qui a sauvé.
C'est ça,
c'est ça,
toi dont l'ombre fut faite dans cette cité où tout manque tellement. Autour de cette table où tu nous manques tellement. L'amour, tu l'as pris sur ton dos sans te retourner, sentir le temps s'effriter. La rue de ton nouvel ailleurs est traversée par tous les bars. Toutes sortes de folies d'où tu nous fiches d'un regard qui semble nous dire bois, baise, même si le temps est assassin.
Regardez par vous-même, par l'œil des ouragans, nos enfants se dévaster dans la manufacture des vents, leur morne texture. Que du chaos à offrir, des fleurs animales, des chiens s'en allant dans la nuit, des rêves qui ne servent à rien, des jours qui nous glissent des mains, ruisselant dans le noir, des impasses de l'oubli inondées par les larmes, des soleils en cavale vers l'aube inconnue, tel le temps revenu de sa lointaine inertie.
Le miroir épouse la forme de sa réflexion. Ne reste que la houle pour bercer l'enfance. La mémoire désormais sera faite d'eau. Un peuple s'est mis à danser sur la mer à la sable soif, aux vastes étendues de whisky. Ta voix a mui. La mer, elle m'a cassé le cœur. Cœur cassé en plusieurs morceaux. Cœur des sons qui font couler les yeux. C'est moi qui aurais dû aller marcher sur le chemin des brumes. La mort est une sale petite pute.
Temps miroir, largué, brisé, fleur numérique jetée dans la lumière. Vous qui fûtes seul et maudit, les derniers paysages de la saison humaine de l'amour, je vous pleure en silence. de peur que sur vous mes larmes aient une longueur d'avance. Et vous promets de toujours vous écrire du lieu de l'ivresse, de l'amour, de la révolte.
Nous venons de vous entendre, Mackenzie Orcel, avec votre ami, l'écrivain et le chanteur Gaël Faye, lire tous les deux, vous lisiez des extraits d'un de vos livres de poésie qui s'intitule « La nuit des terrasses ». C'était lors d'un concert à Radio France mémorable, c'était le 7 mars 2007. Et auparavant, on a entendu votre choix musical, on a entendu cette voix d'Eddy François. Merci pour ce choix. Et qui est Eddy François? Et que nous chantait-il?
Eddy François, c'est un chanteur haïtien qui a émergé dans les années 90 en Haïti. Il a fait pas mal de choses, pas mal d'albums. Et pour moi, Eddy François, c'est l'une des voix majeures de la musique haïtienne. Je pense qu'il a réussi dans la musique ce que j'essaye de réaliser et en littérature, c'est de mettre en scène, donner à voir, sentir l'âme haïtienne, l'âme humaine. Blackout, quand il dit blackout, c'est très fort, le blackout social, le blackout politique, le blackout identitaire, dans le pays, de tous côtés, en Haïti, partout. C'est une voix large, vaste, et je l'aime beaucoup.
Alors dans cette émission, Mackenzie, on a l'habitude de demander à quelqu'un qui connaît bien le travail de notre invité de s'exprimer. Il se trouve que Nicolas Hidier, qui est écrivain, il est là dans le studio, donc il va pouvoir parler de vous. Je crois savoir qu'en plus, vous êtes en train tous les deux d'écrire en ce moment même un livre, donc vous allez aussi pouvoir nous parler de votre futur en écriture. Nicolas Hidier, vous qui êtes connaisseur des civilisations extra-occidentales, qui nous avez donné des livres magnifiques, notamment sur la jeunesse chinoise après Tiananmen, vous qui connaissez bien la langue française, qui est pour vous Mackenzie Orsen?
C'est très simple, Laure. Depuis la seconde où j'ai rencontré Mackenzie Orcel, j'ai été traversé de la conviction que j'avais en face de moi et que j'étais en train de découvrir un des plus grands écrivains, non seulement un écrivain haïtien, mais un écrivain de langue française, un écrivain universel. C'est une conviction qui a grandi en moi, une conviction qui s'affirme aujourd'hui de plus en plus, qui certes s'est ajoutée d'une amitié, mais qui est une conviction avant tout littéraire. Et peut-être encore plus qu'une conviction littéraire, qui est une conviction politique. Car Mackenzie, depuis ce jour où il est arrivé à Pékin, c'était en 2012, au printemps, après un voyage terrible, puisque la République populaire de Chine n'a pas reconnu diplomatiquement Haïti, donc Mackenzie a dû traverser un certain nombre de pays pour atterrir jusqu'à Pékin. Depuis cette minute, j'ai compris que Mackenzie était un auteur politique, au sens le plus noble du terme. Un auteur politique apte à ouvrir la langue, d'une part, en tant qu'écrivain, et apte à détruire les frontières en tant que citoyen, sans aucune précaution, avec une forme de violence naturelle, tranquille, généreuse, mais une forme de violence quand même. Et depuis ce jour-là, depuis cette soirée-là, en 2012, je m'en rappelle très bien, c'était la commémoration du 4 juin. Donc nous étions chez un artiste contemporain chinois, 4 juin 1989, la place Tiananmen, la révolution pour la démocratie, et là Mackenzie arrive, donc je l'ai rencontré un soir de commémoration du 4 juin 1989. Le symbole est pas inintéressant.
Aujourd'hui, effectivement, quand on vous lit Mackenzie Orcel, on a l'impression que vous fracturez la langue française, à la fois par la multiplicité des intrigues, à la fois par la description des personnages que vous avez inventés, à la fois par la cartographie sociopolitique de votre propre pays, et à la fois par cette révolte qui manifestement vous habite, en tout cas qui nous habite, nous lecteurs, quand on vous lit. Avez-vous l'impression que la beauté de la langue française, c'est vous?
Mais la langue française, pour
c'est
moi,
votre génération. Ouais. Et c'est ce déplacement vers des îles comme Haïti qui peuvent féconder cette langue française qui a peut-être terriblement besoin de vous.
Et je pense que ma langue à moi, c'est une quête, elle reste une quête. La langue française, c'est un outil, je passe par cet outil, je vais le fatiguer beaucoup, je vais le violer, je vais le déchirer, le dévorer pour pouvoir arriver à ma propre langue.
Et vous ça... avez été élevé en créole ou en français, ou les deux?
Les deux, mais dans quelle que soit la langue, c'est ça le but. Donc le créole, c'est une langue, c'est un outil de travail, c'est une matière. La langue française, pour moi, c'est ça. Je dois arriver à ma propre langue. Et je vais passer par cette matière, je vais la violer, je vais la caresser, je vais faire tout pour pouvoir atteindre ma propre langue, ma langue à moi. Et donc, cette langue aussi, pour pouvoir l'atteindre, je dois aussi passer par la poésie. La poésie, pour moi, c'est le sommet du langage. Un écrivain est avant tout poète. Si on n'est pas capable de faire souffler la poésie dans ce qu'on écrit, mais dans tous les sens, la poésie du quotidien, la poésie du mouvement, la poésie du geste, la poésie de la présence, la poésie de l'absence, il faut arrêter, il faut faire autre chose, parce que finalement une histoire, c'est trop facile. Tout le monde peut raconter une histoire, mais la manière de raconter une histoire, la façon de raconter une histoire, et tout est là.
Comment qualifieriez-vous, Nicolas Hidier, la poésie de Mackenzie Orcel? On a pu l'écouter avec Gaël Faye tout à l'heure. Je vais lire un très court extrait de vous, Mackenzie Orcel, d'un de vos poèmes. Je le lis. « Maintenant qu'une oreille se sacrifie pour que les autres puissent l'entendre, de vos jupes aux psaumes enfumés du monde, le chant gueule en baume. Le chant porté à vos lèvres comme une tache incommunicable de terre retournée, soulevée du cœur fantôme de la ville vers les collines sous-traitées de jalousie, etc., etc. » Dans quelle histoire de la poésie française vous inscririez l'œuvre de Mackenzie Orcel, Nicolas Hidier?
Moi, ce qui me passionne avec Mackenzie, c'est précisément qu'il n'appartient peut-être à aucune histoire.
Oh, il aime beaucoup Baudelaire. D'ailleurs, dans son nouveau livre, Maître Minuit, il y a un personnage qui, comme par hasard, s'appelle Maître Baudelaire.
Georges Baudelaire.
Oui, mais Baudelaire quand même.
Mais il y en a partout des Baudelaire.
Et moi, ce que j'aime dans la poésie, justement, de Mackenzie, c'est que c'est une poésie humaine. Encore une fois, dans cette volonté que tu as, Mackenzie, de casser les frontières, de pas accepter ni d'être un homme, ni d'être une femme, de donner du reste souvent la parole aux femmes, à ta mère, ou à des amoureuses, ou à des grands-mères, ou à des femmes mortes, traverser toutes les frontières. Alors certes, évidemment, si on faisait un peu d'histoire littéraire, on pourrait trouver les lectures de Mackenzie, on pourrait trouver Nietzsche, on pourrait trouver Baudelaire, on pourrait trouver toute cette vertu tellurique qui remonte petit à petit comme ça dans les mots de Mackenzie. Mais à la fin, ce qu'il en reste, c'est surtout que c'est une poésie humaine qui n'est pas genrée, qui n'appartient pas à une race ni à un pays, qui n'appartient peut-être même pas à une langue, ce qui est quand même très intéressant. Pourtant, Mackenzie, à mon avis, si j'étais traducteur, j'aurais beaucoup de difficultés à traduire le verbe de Mackenzie, qui en effet est une grande langue française. Et malgré ça, c'est une langue française eh bien, qui se libère d'elle-même.
On va dire que c'est une œuvre qui s'inscrit
Mackenzie Orcel
dans l'advenu, dans le lointain. Ouais. Elle n'est pas là. Elle est en chemin vers l'advenu, le lointain.
Je vous propose d'écouter la voix d'un autre écrivain haïtien, ô combien important, je suis sûre que vous le connaissez, Mackenzie. Il s'appelle Franck Etienne.
Oui.
Il est à la fois poète, conteur.
Ah, il est tout.
Il est, voilà, c'est un homme-monde, un peu comme vous.
C'est un toutiste.
Il est beaucoup plus vieux que vous, mais...
Ah ouais, beaucoup plus vieux. C'est un toutiste. Il est comédien, il est chanteur, il est poète, il est dramaturge, il est chanteur, voilà. C'est un homme...
Est-ce qu'il est peintre?
Il est peintre
aussi. D'ailleurs,
il est absolument peintre.
Et il peint... J'ai eu la chance d'aller dans sa propre maison il y a quelques années, à Haïti. Et sa maison est un véritable temple orné par des grandes fresques qu'il a lui-même dessinées et qui constituent sa vision personnelle de l'ordre du monde à l'intérieur duquel il a l'air de très bien vivre et de pouvoir se nicher avec délectation. Je vous propose d'écouter sa voix. Il va parler de la langue française. C'est une archive INA du 6 janvier 2014.
La vie au premier degré, ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas la création est un artifice et souvent même un immense mensonge, mais qui permet à l'individu, qui permet à l'être de passer par le plus court chemin pour atteindre la vérité. C'est peut-être un paradoxe, mais c'est ainsi que ça se présente, parce que personne dans les rues de France ne parle comme Victor Hugo, aussi bien qu'en Haïti, personne ne parle la langue de Franck Étienne, même pas Franck Étienne lui-même. Donc il y a une énorme différence. Mais cependant, quand j'ai dit que personne ne parviendra à dire beaucoup plus qu'il n'aura vécu, cela veut dire que une seconde de vie dans la vie de n'importe qui est beaucoup plus riche que toutes les bibliothèques du monde entier. L'écriture, la peinture, l'art, la création est un artifice divin, mais la vie elle-même, dans sa portion, dans sa moindre palpitation, porte tous les possibles. Donc l'art se nourrit de la vie, mais avec ceci, il faut reconnaître qu'il y a une transcendance d'ordre mystérieux.
Alors les mots de transcendance, de tous les possibles, manifestement conviennent bien aussi à la force de votre écriture. Avez-vous l'impression que vous êtes dans le même chemin d'élan artistique, Mackenzie Orcel, que Franck Étienne, que vous incarnez la nouvelle génération?
Non, je sais pas. Je sais pas dans quel état je suis quand j'écris un livre. Cette transe, elle est inexplicable.
Transe, vous dites, pour écriture.
Ouais, cette transe, elle est inexplicable. Cette flamme qui nous habite, qui nous prend, qui nous brûle, elle est inexplicable. Je sais pas l'expliquer. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que dans mes personnages, qui sont aussi moi-même en quelque sorte en les campant, j'essaye de mettre tout. J'essaye de les camper vraiment. J'essaye d'être avec eux au maximum, dans leur bonheur, dans leur tragédie, dans leur joie, dans leur jouissance. Après, expliquer ce moment de création, je sais pas si on peut expliquer comment on crée, comment on parvient à écrire un livre. Comme il le dit si bien, c'est divin, ça nous dépasse. Comme dirait Nicolas, on est plus que nous-mêmes.
Je vais vous lire, Mackenzie, c'est l'avant-dernier livre. Il est de ces jours où il fait un temps à aimer la vie, coucher sous les arbres, regarder danser le vent dans les branches, compter les étoiles éparpillées sur l'immense tapis noir du ciel, à essayer bêtement de trouver celle qui t'appartient, car chaque vivant sur la terre est branché à une étoile dans le ciel qui file. La veille de sa mort, enfant, on avait fait croire à Mackenzie plein de conneries comme ça, et depuis qu'on lui avait raconté cette histoire d'étoile, tous les soirs, il fixait longtemps le ciel de ses grands yeux pour regarder les étoiles filer par centaines de milliers. Mackenzie Orcel est devant moi, et pourtant Mackenzie, eh bien, il est dans l'ombre animale, un des personnages. Croyez-vous que vous existez vraiment, Mackenzie Orcel?
Je sais pas. Oui. Oh, oui, oui, j'existe parce que j'écris des livres, je suis là, je respire.
Ça veut dire que vous êtes vivant quand vous écrivez des livres?
Et oui, parce que si je suis pas vivant, c'est pas possible. Mais ce qui se passe dans L'ombre animale, c'est que c'est un livre qui rassemble des contraires, des réalités contraires. C'est un livre, c'est un cadavre qui nous parle depuis le lieu de la mort, mais il nous parle de la vie. Et enfin, la vie, la mort, le ciel, la terre, enfin, c'est en long commentaire sur les contraires, le livre. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas participer à cette expérience? C'est-à-dire me couper en deux, me dire que nous sommes tous habités par nos contraires, par des fantômes, par des coins sombres, par des zones sombres, et que je me suis divisé en deux. Mackenzie, qui est un personnage horrible, et Orcel, qui est dans un autre rapport à la vie, qui est plutôt un mec qui regarde le monde. Il est plus ou moins heureux, il marche, il respire. Voilà. Et donc, je me retrouve dans ce livre comme ça. Mais Orcel, dans le livre, c'est pas moi, Mackenzie, c'est pas du tout moi. C'est des personnages que j'ai campés juste pour pouvoir participer à l'expérience du livre.
Alors j'espère.
Et ça ne m'a pas tué.
Bon, Ben oui, je vois que vous êtes bien vivant et heureux de vivre, manifestement. Et nous, très heureux d'avoir découvert votre nouveau livre, Mackenzie Orcel. Il nous reste quelques petites minutes pour évoquer le travail en cours. Voilà deux jeunes écrivains qui se sont rencontrés, qui s'estiment mutuellement et qui finalement ont tellement envie de passer du temps ensemble et aiment tellement cette langue française qu'ils ont décidé d'écrire ensemble. N'allez-vous pas, chacun, pour chacun d'entre vous, perdre votre identité? Et que va-t-il se passer, Nicolas Hidier, quand vous allez écrire avec Mackenzie Orcel, qui, comme il vient de nous l'expliquer, n'existe pas vraiment?
Je pense que Mackenzie existe très bien. Non, écrire un livre ensemble, c'est d'abord se donner une manière de communiquer. Lorsque nous avons pris la décision de nous lancer dans ce projet, nous étions à Calcutta, dans une boîte de nuit accoudée au comptoir d'une boîte de nuit qui s'appelle le Tantra, en plein Calcutta, sur Park Street.
Alors évidemment, on comprend tout.
Et il y avait énormément de bruit, Rihanna nous empêchait de lui parler, ouais. Exactement. Et là, Mackenzie me dit, tu sais ce qu'on devrait faire, c'est écrire un livre. À peu près 5 ou 10 minutes ont passé, et après de ces 10 minutes, je lui dis, c'est une très bonne idée.
Vous aviez beaucoup bu ?
Non, on est 2-3 verres à peine,
ouais.
Et on a pris cette décision. Et écrire un livre ensemble, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez important. On perd de vue la notion de solidarité en littérature, la notion de communication, la notion de rapprocher des écrivains. Il y a eu une époque où il y avait des écoles, où il y avait des groupes, où il y avait des amitiés à la vie, à la mort.
Il y avait même des villes-refuges pour écrivains.
Il y avait des manières de s'aimer par l'écriture, de s'aimer par la littérature, par le partage des lectures. Et d'une certaine manière, je pense qu'il est temps aujourd'hui, parce que le monde n'est pas en très bonne forme, de renouer avec cette époque-là, l'époque des amitiés d'écrivains. Et avec Mackenzie, on se donne beaucoup de peine et on travaille beaucoup pour atteindre, pour recréer cette maison.
Vous avez un titre ?
Enfin, on a tout, hein, mais c'est juste que...
C'est mystère.
On ne peut pas tout dire ici.
Ok, d'accord. Ben écoutez, on vous attendra pour le livre. Il sortira quand, ça on peut le savoir ?
Oh, l'année prochaine, en septembre.
D'accord. Ben merci infiniment, Nicolas Hidier, d'être venu dans ce studio pour partager notre amour de la littérature de Mackenzie Orcel, qui d'ailleurs a été récompensée depuis pas mal de livres par des grands prix prestigieux. J'ai cru comprendre juste avant l'émission que vous viviez en France maintenant ?
Oui, depuis un moment.
Mais pourquoi ?
Je sais pas. Parce que bon, j'aime beaucoup Paris.
Ben, pas seulement, mais ouais. En plus on bénéficie de vos ateliers d'écriture. Et de la force de votre croyance en la littérature.
Ah oui, bien sûr. Oui, je fais ça un peu trop souvent. J'anime des ateliers d'écriture dans les lycées, pour la maison de la poésie. Voilà, je tourne beaucoup. Je fais ça un peu en Afrique. Je vais le faire à Montréal en mai. Enfin, ouais, j'aime bien partager, essayer de faire parler de littérature. Et d'écrire aussi, d'être dans un autre rapport à l'écriture, à la lecture. Ouais.
Bah vive,
surtout avec les lycéens.
Bah vive la solidarité, vive la contagion de l'amour de la littérature. Et merci infiniment et bravo Mackenzie Orcel. Je rappelle que vos livres sont publiés par les éditions Zulma et que le dernier s'intitule « Maître minuit ». Et puis, c'est bientôt la fin de cette émission. Et nous allons nous quitter en musique avec quelqu'un que nous aimons beaucoup et je suis sûre que vous la connaissez tous les deux, c'est Mélissa Lavaux.
Cousin, papa, cousin là, cousin.
Merci à Florent Beauvallet qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert, et à Claire Destacan qui a réalisé cette émission. Et puis comme chaque lundi soir, après un week-end sans Mishka, enfin nous le retrouvons, notre cher Mishka. Et là, vous allez rendre hommage, j'imagine, au grand Michel Legrand.
Oui, ce qui est peut-être inattendu de ma part, mais
pas du tout.
Ben un peu quand même, parce que
non,
vous allez
pas du tout.
Bon, d'accord. Sous un versant.
Ça m'étonne pas de vous.
Ça sera sous un versant un peu inattendu. Vous allez l'entendre.
Eh bien, on vous attend avec impatience. À tout à l'heure, Mishka.